Phil PM Paranormal.
The flying disc has been found.
El Mítico Chupacabras.
Les enquêtes de Christian Page.
Et comme à chaque vendredi, nous terminons notre semaine, mesdames et messieurs, par les mythes et complots. Chronique insolite de Christian Page. Bonjour, mon cher Christian.
Salut, Bernard.
Je suis très excité.
Oui, on parle de l'exorcisme.
Oui, c'est avec ça que l'exorcisme.
Possession du diable. Je te rappellerai d'ailleurs.
Depuis le film. Le film.
Phrase été... célèbre. La truie est à moi.
C'est qui la truie?
La truie, en fait, c'était la jeune. C'était Regan McNeil qui était interprétée par Linda Blair.
C'est ça.
Qui était à ce moment-là possédée par un démon,
Un méchant démon, là.
Oui. Pazuzu. Hein, c'était le démon Pazuzu qui possédait.
Pazuzu.
Un démon avec une main levée et des ailes. C'est Pazuzu.
Pazuzu, c'est parent avec Lucifer, ça?
Ouais, voilà. Ça fait partie de la horde des démons qui hantent les enfers.
Bon. Alors là, l'Église. En fait, non, c'est justement la grande révolution. C'est pas juste des prêtres de l'Église catholique, mais des figures religieuses d'autres religions chrétiennes se rencontrent.
Oui, et au moment où on se parle, ça se tient à Rome. C'est le 14e congrès sur l'exorcisme et les prières de libération. Donc, je te mets la table. On fait une distinction entre l'exorcisme et les prières de libération parce qu'il faut savoir que dans la religion catholique, un fidèle peut être tourmenté par le diable ou possédé. Ah. Donc, on reconnaît deux formes, en fait, d'envahissement du malin. Ah. Le premier, donc, c'est le tourment. Donc, ce sont des gens qui se disent avoir des pensées impures et qu'ils croient être harcelé par le diable.
Okay.
À ce niveau, je suis moi-même harcelé.
Ben, j'allais dire, tous ceux qui ont des pensées impures sont harcelés par le diable, on est une maudite gang.
Voilà, exact. Donc, les gens qui sont tourmentés par le diable peuvent aller voir simplement leur prêtre, leur curé, et puis, bon, raconter un peu leurs troubles. Et à ce moment-là, il y a des prières de libération qui vont être prononcées. Et ça, c'est un truc qui fait partie, en fait, de la formation de base de la prêtrise, c'est les prières de libération.
Okay.
Dans le second cas, bien sûr, lorsque le démon envahit l'individu, se substitue à sa volonté, l'on ne parle plus de tourment, on parle de possession. Mmh. Et là, dans ce cas-là, il va y avoir un véritable combat entre le prêtre et le diable. Hein. Mmh. Sors de ce corps, Satan.
Oui,
donc,
oui.
Ce combat, il doit être mené par un prêtre de formation et qui va appliquer le rituel de l'exorcisme catholique romain. Exorcisme, d'ailleurs, un rituel, je dois dire, qui a été écrit pour la première fois. La première publication débute a été faite au début du 17e siècle.
Ah.
Il a fallu attendre le pape Jean-Paul II pour revoir une refonte du rituel, qui était déjà quand même vieux de 250 ans à ce moment-là. Et on a introduit, bonne chose quand même, on a introduit l'intervention de médecins spécialisés dans la psychologie ou la psychiatrie.
Ah.
Ce qu'on n'avait pas dans l'ancien rituel. Donc, sous Jean-Paul II, on se dit, avant de conclure que quelqu'un est possédé par le diable, il faudrait peut-être aller voir un psychologue ou un psychiatre, s'assurer qu'il y a un suivi médical qui est fait autour de l'individu. Donc, mais c'est vrai que sous Jean-Paul II, le rituel de l'exorcisme était un peu mis de côté. Et là, il revient à la mode. En fait, il faut dire qu'en 2014, le pape François a reconnu le statut juridique de l'ordre des prêtres exorcistes de l'Église catholique romaine.
Ah oui,
donc,
ils ont passé un examen, puis ils ont
un statut très propre à eux-mêmes.
Bon.
Et là, la grande nouvelle, tu l'as mentionné, cette semaine, donc tout ça s'est ouvert lundi à Rome, on a un congrès d'exorcisme et de rituel de libération, et là, on assiste à une... Bon, cette réunion-là regroupe quelque chose comme 240 participants qui viennent de 42 pays. Mais la grande distinction cette année, c'est qu'on accepte dans la communauté des prêtres d'obédience chrétienne, mais qui ne sont pas forcément de foi catholique.
Ah.
Et ça, c'est très curieux. Donc, pour la première fois, on voit des luthériens côtoyer des anglicans, côtoyer des catholiques, et tout ça réuni sous une même égide, celle de ce combat contre le diable.
Un ennemi commun.
Bon. Et c'est vrai que le mouvement de laïcité qu'on retrouve surtout dans les grands pays industrialisés, particulièrement en Europe et en Amérique du Nord, ben, pour l'Église, c'est perçu un peu comme un recul. Ça donne plus d'espace au diable qui est toujours omniprésent. Il est omniprésent, toujours selon la vision catholique, il est omniprésent à travers toutes sortes de médias qui se multiplient. Hein. Avant, autrefois, on avait la radio, ensuite on a eu la radio, la télévision, et là maintenant on a radio, télévision et les médias sociaux.
Ah, oui.
Donc on pointe du doigt, bien sûr, les médias sociaux, l'imagerie populaire associée au diable qu'on retrouve au cinéma, qu'on retrouve dans la culture, qu'on retrouve dans la littérature. On pointe même du doigt des ouvrages un peu comme Harry Potter, hein, qui font la promotion de la sorcellerie, du diable, des forces obscures.
Moi, je veux savoir, là, le congrès sur l'exorcisme, là, comment ça se passe? Est-ce qu'ils visionnent le film L'Exorciste pour voir un peu à quoi ça ressemble? Y ont-tu des vidéos d'exorcistes qui ont été pratiquées sur certaines personnes? Est-ce que nous, on pourrait y avoir accès? Toi puis moi, maintenant, on pourrait-tu se faire accréditer pour être là, puis les regarder aller, puis voir comment ils se
Malheureusement, non. C'est donc fermé. Bien sûr, ils ont des projections de films, d'images qui ont été tournées lors de rituels de libération, rituels de possession.
Christian, faut-tu mettre la main là-dessus?
J'essaie. Alors, donc, on a ces images-là. Ces prêtres vont se réunir, d'ailleurs, c'est dimanche, après une célébration œcuménique, les prêtres vont se réunir autour d'une table où, là, ils vont échanger, notamment, chacun d'entre eux, ou à tout le moins ceux qui ont été impliqués dans des rituels comme ceux-là, vont échanger, parler de leurs propres expériences et ainsi pouvoir communiquer de quelle façon ils ont réagi devant ces manifestations du diable.
OK, mais dis-moi, là, est-ce qu'il y a-tu quelque chose qui va être rendu public de leur délibération? On va-tu apprendre des choses ou est-ce que tout ça reste à l'intérieur de la rencontre et tout reste secret?
Bernard, je dois t'avouer que si on se réfère aux 13 congrès précédents qui ont eu lieu, rien n'a filtré de ces réunions.
Ben là.
Donc, c'est un peu malheureux.
Ben, c'est poche au bout. On aimerait ça, nous autres, entendre. Les cinq meilleurs exorcistes, là, tu sais.
Ouais, bien sûr, on voudrait tous voir ça. Et c'est amusant parce que cette nouveauté, hein, qui accueille des gens qui sont de foi chrétienne, mais d'obédience, par exemple, anglicane ou autre.
Ouais.
Ce qui est assez intéressant ici, c'est que la feuille de route dit, il faut d'abord connaître quelles sont les prières de libération, quels sont le rituel catholique romain de l'exorcisme, mais également reconnaître les signes du diable, reconnaître les signes de l'infestation du diable, les signes de la possession. Et c'est assez amusant parce qu'on voit que ces signes de la possession diabolique vont fluctuer à travers les siècles. Ce qui était reconnu comme des signes de la possession diabolique au 17e siècle n'est plus tout à fait la même chose aujourd'hui.
Bon.
Et je serais très curieux de savoir quels sont ces signes et quel est en fait l'écho que donne la médecine, la psychiatrie ou la psychologie de ces 10 signes de possession diabolique. Tu sais qu'au Québec, il y a, dans le cas de la possession diabolique, et du rituel de l'exorcisme, il y a bien sûr une chaîne de commandements. Hein, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une demande pour un rituel d'exorcisme, tout ça doit remonter à l'évêque. L'évêque va autoriser ensuite le prêtre. Mais cette chaîne de commandes n'est pas toujours respectée. Il y a des prêtres, j'en connais un à Trois-Rivières, qui est décédé maintenant, mais qui à l'époque passait outre la chaîne de commandements et lui allait à quelques reprises a fait des rituels d'exorcisme. Mais je l'ai accompagné à deux reprises.
Pardon?
Et je l'ai accompagné à deux reprises dans des rituels d'exorcisme et je te répondrai que j'ai cherché le démon, mais je n'ai vu que de pauvres diables.
OK.
Donc, je n'ai rien vu pour être...
C'était pas comme Linda Blair, puis la personne, elle ne levait pas au-dessus du lit.
Non. Donc, on avait des gens dans les deux cas où moi j'étais présent, j'ai eu vaguement l'impression que ces gens-là avaient besoin davantage de support psychologique ou psychiatrique que d'avoir une intervention de l'Église.
Ah, ben tu me rassures.
Ouais.
Tu me rassures. Non, mais
oui,
tu me rassures.
C'est quand même rassurant.
Bon, OK. Finissons quand même par quelque chose d'un peu plus léger. Les expériences spirituelles.
Voilà, qui reste dans le domaine du spirituel quand même. Et ça, c'est fort intéressant. C'est une étude qui vient d'être publiée par la Johns Hopkins University aux États-Unis. Mm-hmm. Et ce qu'ils ont fait, ils ont présenté au public, en fait, deux questionnaires, des très longs questionnaires. C'était 50 minutes que ça prenait pour répondre à chacun de ces questionnaires. Ils ont interrogé des milliers de personnes. Et c'était on demandait à ces gens s'ils avaient vécu une expérience. Et là, on se comprend bien sur les termes utilisés. Une expérience spirituelle transcendante. Donc, une expérience spirituelle marquante qui avait changé la vie de ces individus. Quand on parle d'expérience spirituelle, tu comprendras qu'on ne parle pas forcément de Dieu. Hein? Le texte de l'étude parle bien sûr de Dieu. Tu peux voir Dieu parce que tu as fait des prières, tu es entré dans un état extatique. Il y a des gens qui vont obtenir ces grandes révélations d'ordre spirituel par de la méditation, dans le bouddhisme, que ce soit le yoga ou d'autres techniques comme ça. Et on évoque même également les expériences de mort imminente. Hein? Ces gens qui, au seuil de la mort, disent avoir vécu une expérience transcendante, le tunnel, la lumière, etc. On parle quand même d'à peu près 10 % des populations d'Amérique du Nord, soit aux États-Unis ou au Canada. C'est quand même 25 à 30 millions de Canadiens qui ont vécu ce genre d'expérience. Et on évoque même les expériences spirituelles obtenues sous l'effet de drogues psychotropes.
Oh.
Donc, par exemple, les gens qui ont pris du LSD vont dire, à un moment donné, dans une espèce de voyage, j'ai eu une révélation, j'ai vu la lumière, et etc., etc. Donc, comment l'expérience spirituelle est introduite a peu d'importance.
Mais elle est bénéfique. Elle est bénéfique.
Et voilà, c'est ça. À long terme, ce que montre l'étude, c'est qu'elle est bénéfique sur la vie des individus. Ils ont une meilleure santé mentale que le reste de la population. Pourquoi? Parce que bien souvent, leurs valeurs morales vont se modifier en fonction de cette expérience. Ils ont un meilleur lâcher-prise. Ils ont une vision beaucoup moins matérialiste. Ils sont beaucoup plus zen dans la vie de tous les jours.
Ah ben, on en aurait tous besoin.
Voilà. Et
d'un
tu comprends...
petit peu de spiritualité.
Et on comprend bien que on le sait, l'un des mots importants de notre société, c'est bien sûr le stress.
Oui.
Or, ces gens-là sont beaucoup moins stressés, beaucoup plus zen, beaucoup plus humains, si je pourrais dire. Et ce qui est étonnant dans cette expérience menée par la Johns Hopkins University, c'est qu'on révèle que le deux tiers des participants qui ont répondu se sont dit au départ athées, sans aucune croyance. Et depuis cette expérience spirituelle transcendante, ils croient en quelque chose, pas forcément Dieu, mais quelque chose au-delà de soi-même.
Ben, c'est une bonne nouvelle et ça finit bien cette semaine. Christian Page, je te remercie. Je te souhaite une belle fin de semaine. On se reparle vendredi prochain.
Oui, à toi aussi, Bernard.
Et j'en profite pour vous remercier, vous aussi, les auditeurs. Merci d'être là. C'est le fun. C'est très plaisant. Merci à l'équipe. Je vous souhaite un bon week-end, tout le monde. C'est Paul qui s'en vient. Ciao.